Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, je vous invite à ouvrir votre Bible et nous allons lire le psaume 91, s'il vous plaît. Le psaume 91, vous le connaissez parce qu'il a été mis en cantique. On y a ajouté pas des paroles, mais de la musique. Et vous allez le reconnaître tout de suite. Et j'aimerais donner un commentaire sur ce psaume parce qu'il nous parle d'une chose tellement importante. Il nous parle de la sécurité. Voilà, être en sécurité. Qu'est-ce que la sécurité ? Être rassuré, avoir la paix, être dans le repos. Eh bien, c'est tout simplement le message de ce psaume 91 et je le lis. Voilà, vous reconnaissez ces paroles. Hein. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu reverras, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alors voici ce fameux psaume qui est une exhortation à nous confier en Dieu. Et vous savez que ce psaume a souvent été utilisé dans bien des circonstances de détresse des hommes, à travers des catastrophes qu'ils ont connues, qu'ils ont subies. J'ai eu l'occasion de constater que c'était un psaume qui était très fréquent récité dans les combats que les jeunes soldats, les GI, vous savez, quand ils ont débarqué en 44, prononçaient. Alors bien sûr, c'était un monde évangélique. Hein. Le monde des États-Unis, c'est souvent des protestants de l'Évangile. Et très souvent, eh bien, ils avaient ce psaume. Et ils avaient de quoi. Hein. Quand on voit ce qui s'est passé dans le débarquement de Normandie, et ils récitaient cela en descendant des barges pour aller sur le feu, parce que c'était quelque chose d'épouvantable. Hein. Des garçons de 20 ans hein, qui étaient tout simplement là, livrés à la mort. Hein. Et ils récitaient ce psaume. Et je pense que c'est un psaume d'encouragement, un psaume de consolation, qui nous montre différents aspects des détresses humaines. Que ce soit la guerre, comme nous venons d'en parler, que ce soit la maladie, la peste, que ce soit toutes les monstruosités de la méchanceté des hommes. Eh bien, c'est véritablement un très beau psaume. Mais on l'a qualifié de la sécurité de la foi, en quelque sorte. C'est pas quelque chose de superstitieux, hein. C'est pas parce qu'on va lire le psaume et puis voilà, tout simplement, mais c'est quelque chose qui soutient la foi et qui la rassure devant les dangers et les périls de la vie. Tout simplement. Alors j'aimerais tout simplement mettre trois aspects devant chacun d'entre nous cet après-midi, trois aspects de ce psaume qui garantissent notre sécurité. Il y a, nous allons le voir à travers ces premiers versets, de 1 à 8, il y a ce que l'on peut rappeler les fondements de la véritable sécurité. À travers les mots qui nous sont donnés, nous allons les passer un petit peu en revue. Et puis, dans une autre partie, du verset 9 au verset 16, il est question tout simplement des rétributions de la sécurité, ou de la confiance que nous mettons en Dieu, ou les bénédictions. Parce que être dans une sécurité quand tout bouge autour de vous, c'est quand même une bénédiction, hein, dont on s'en souvient, parce que quand on en est sorti, on se dit, je suis passé à travers le feu, et si je suis vivant aujourd'hui, c'est parce que c'est vraiment la grâce de Dieu, et la bonté de Dieu, et l'amour de Dieu. Et puis le troisième point, qui est très beau d'ailleurs, c'est l'amour qui garantit la sécurité de se savoir aimé, de se savoir aimé par Dieu, de se savoir protégé par celui qui nous a déclaré qu'il était notre Père, et s'il est notre Père, nous sommes ses enfants, donc ses fils. Et je crois que il n'y a rien de plus réconfortant de savoir que nous avons, c'est vrai, au ciel, quelqu'un qui nous connaît parfaitement et quelqu'un qui nous protège. Et c'est bien la différence peut-être avec l'incroyant ou l'athée qui se dit, je suis là dans une situation, je n'ai que moi-même pour m'en sortir. Hein. Mais quand on est chrétien, on a quelqu'un qui veille sur nous et c'est ce qui fait justement toute la beauté de ce qui nous est donné, de ce qui est écrit. Alors, on va regarder ça par le détail et on va parler d'abord des fondements de la véritable sécurité. Qu'est-ce que la sécurité ? C'est tout un programme. Hein. Alors on connaît la sécurité sociale, hein, et ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Socialement, nous sommes garantis. Parce qu'il y a là un fonds, une caisse, il y a un système qui nous met hors de la pénurie et qui touche particulièrement la santé des gens. Hein, je veux dire, les frais, les dépenses de santé des gens. Ça, c'est une très bonne invention. Hein. C'est sûr que aujourd'hui, on aurait du mal peut-être à s'en passer. Profitons-en parce que ça ne produirait toujours. Mais toujours est-il qu'on connaît ça. La sécurité, on en parle tous les jours dans sécurité routière, par exemple. Il y a des normes, il y a des codes. Et naturellement, à qui les enfreint prend des risques pour lui-même, mais il en fait prendre pour les autres. Hein. C'est pour ça qu'il y a quand même quelque chose de très sérieux par rapport à ça. Hein. Et puis, différentes autres formes de moyens qui sont mis à notre disposition pour nous rassurer et puis nous garantir dans la vie. Alors, c'est tout un monde, tout cela. Mais dans ce psaume, il y a quelque chose de tout à fait particulier, c'est que la première réponse que nous avons à cette question, c'est que la sécurité, elle repose sur la nature même de Dieu pour un chrétien. Voilà. C'est parce que Dieu est Dieu, c'est parce que Dieu parle, c'est parce que Dieu dit, c'est parce que Dieu est tout-puissant, El Shaddai, hein, il nous est dit « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre des Shaddai ». Ça vous rappelle un petit cantique que nous chantons de temps en temps. Hein. C'est vrai, le tout-puissant. Il y a certainement des moyens de protection ou de sécurité qui ont leur raison d'être, avec des garanties, avec ce qui peut nous rassurer. Mais là, nous avons affaire à quelqu'un que l'on ne voit pas, comme on le dit très souvent, mais nous le savons, tout puissant. Alors, de qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Puisque si nous avons le plus avec nous, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et comme Jean le dira et l'écrira dans une de ses épîtres, il dira, mais celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc ça, nous avons véritablement une assurance, nous pourrions dire, contre tous les périls, tout ce que nous pouvons imaginer, tout ce que nous n'avons même pas à imaginer, parce que c'est vraiment la nature de Dieu de délivrer, de protéger et de garantir. Vous savez, depuis les temps immémoriaux, les hommes ont cherché à se garantir. Chrétiens, croyants, les juifs, et puis tout le monde païen, hein. C'était même quelque chose qui tournait à la superstition. Hein. Il y avait toutes sortes de cultes, au culte, il y avait toutes sortes de garanties que l'on se donnait à travers, tout ce que pouvait imaginer l'homme pour finalement se protéger. Mais ça c'est le monde, tout simplement. Mais en ce qui concerne la foi biblique, nous n'avons pas besoin de représentation, nous n'avons pas besoin d'un lieu où nous pourrions nous mettre à l'abri. Nous avons quelqu'un qui nous déclare qu'il est le Tout-Puissant, et que s'il est le Tout-Puissant, alors à ce moment-là, nous pouvons vraiment nous mettre sous sa protection. Alors voilà ce qu'il est dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. C'est-à-dire qu'il faut s'y placer, il faut y recourir, il faut s'y mettre en refuge en quelque chose. Celui qui est à l'abri du Très-Haut, alors à ce moment-là, il repose, tout simplement, dans son ombre. L'ombre, c'est caché, vous comprenez ? C'est pas la pleine lumière. C'est ce que l'on peut imaginer où l'ennemi ne va pas nous voir parce que nous sommes justement dans cette pénombre. D'ailleurs, que quand on a peur, on se cache. Hein. Et on ne se cache pas à la lumière, en principe. Quand vous voulez vous réfugier quelque part, vous ne mettez pas sous une ampoule pour que tout le monde vous voit. Hein. À l'ombre du Tout-Puissant, comprenez ? Les mots sont dits, hein, parce qu'il est Tout-Puissant, mais il est notre garantie. Et combien nous avons entendu d'histoires, hein. Combien nous avons même lu d'histoires dans la Bible où nous avons vu des protections de Dieu miraculeuses et surnaturelles dans certains cas où véritablement les ennemis sont passés à côté de ceux qu'ils recherchaient sans les voir, hein, comme un aveuglement. Vous connaissez les histoires, hein, il y en a, je ne veux pas les citer parce que c'est pas le but de cet après-midi. Donc, un des fondements de la véritable sécurité, c'est la nature même de Dieu parce qu'il est tout-puissant. Le verset 2 nous dit ceci. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Voilà, ça c'est la réponse. Je suis dans une situation peut-être délicate et je parle à Dieu. Et j'affirme, tu es mon refuge et ma forteresse. Il y a des mots qui ont leur signification, il y a des mots qui ont un sens. Et la deuxième réponse que nous pouvons donner, c'est que la véritable sécurité repose sur notre engagement à croire en Dieu. Ouais. Et il le déclare. Je dis à Dieu, en qui je peux me réfugier. Et plus qu'un refuge qui reste peut-être un abri précaire, une forteresse. Ouais. Vous savez ce que c'est qu'une forteresse ? C'est quelque chose de monumental. Dans la Bible, il nous en est parlé. Je pense à Jéricho. Mais il y en a là des... Hein, autour de nous, pendant la dernière guerre, c'était les blocos, hein, c'était des forteresses, hein, le mur de l'Atlantique. Hein, c'était pas n'importe quoi. Et on voit ça quelquefois dans certains paysages de notre pays. C'est quelque chose de monumental, avec des tours énormes, on se dit. Les gens qui ont construit ça, c'était quelque chose. Mais ceux qui rentraient à l'intérieur, c'était une véritable garantie. Ils pouvaient se mettre. Et souvent, c'était pour empêcher... les assaillants d'aller plus loin dans le pays. Hein. On mettait en plein milieu là un barrage, une forteresse, et les gens ne passaient pas. Donc c'est quelque chose qui est susceptible de nous protéger. Et le psalmiste dira ceci, « Mais mon Dieu, en qui je me confie ?» Voilà notre véritable forteresse. Ce sont des mots, mais des mots qui ont une force, qui ont une puissance. Et c'est précisément parce que je les crois. Vous savez, dans le monde des chrétiens, nous ne sommes pas et nous n'avons pas à être superstitieux. Il y a des gens qui, voilà, sont en train de faire toutes sortes de choses, on entend très souvent. Pourtant, ça n'a aucun sens. Je croise les doigts vous pouvez toujours les croiser autant que vous voulez. C'est vraiment dérisoire. Excusez-moi, je ne me moque pas, mais c'est ce qu'on entend, hein. Voilà. Ou je touche du bois, enfin. Écoutez. Mais là, c'est une prononciation d'une parole, une parole qui est entendue d'en haut et qui dit « Mais tu es mon Dieu et je me fortifie en toi, je me confie en toi. » Ça, c'est quelque chose. Et c'est ce qui fait la constitution de cette belle prière, en quelque sorte, parce que les mots sont dits, tout simplement. Mais est-ce que nous n'avons pas quelquefois, dans les moments d'effrayeur ou de peur, oublié ces paroles ? Et ça, c'est bien de pouvoir, et je suis sûr qu'il a été à travers tous les temps, dans les temps de détresse des hommes, dans toutes sortes de tempêtes et d'ouragans de la vie, eh bien ce psaume a été certainement une forteresse pour ceux qui craignaient, ceux qui avaient peur. La peur, c'est commun à tous les hommes. La peur, ça peut arriver à tout le monde. Et Dieu ne nous reprochera pas d'avoir peur. C'est vrai, il pourra peut-être nous signifier que la peur, elle est en train de détruire notre foi. Ça, c'est possible, c'est ce qu'il a fait aux disciples. Mais néanmoins, la peur, eh bien, elle est humaine. Mais néanmoins, nous avons l'antidote à la peur. C'est de pouvoir nous confier en Dieu et de lui parler. Et de croire que ce que véritablement il dit, il va le faire. Et puis ensuite, nous avons les versets suivants qui nous disent « Mais car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes, car sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. » Ce que nous apprenons à travers ce psaume, c'est que, et également une autre réponse à notre question, c'est que la sécurité repose sur la fidélité indéfectible de Dieu. Voilà. Dieu ne manquera jamais à son rendez-vous. Dieu sera toujours là quand on l'appelle. Dieu sera toujours à nous mettre à son ombre, à nous mettre en protection ou en garantie lorsque nous aurons besoin de lui. Il sera toujours là. On n'a pas besoin de chercher Dieu, il est là. Et il y a des gens qui sont en train de rechercher comment ils pourraient trouver Dieu, où il est, où il se trouve, et de pouvoir peut-être être rassurés par quelque chose de sensuel qui pourrait leur donner l'impression que Dieu est beaucoup plus près d'eux qu'ils ne le pensent, alors que Dieu est toujours en permanence, là. Et regardez là, les circonstances qui nous sont données, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Qu'est-ce que c'est que le filet de l'oiseleur? C'était certainement une méthode de chasse dans les hommes dans le temps, où ils avaient finalement, ils tendaient des filets, comme ça se fait encore, hein. La palombe, il me semble, hein, c'est ça, hein, on tend des filets et puis après on sort le fusil pour tuer ces oiseaux. Et les oiseaux viennent, ils sont attirés par des appâts et ils viennent se mettre dans les filets. L'oiseau du phalo, c'est le piège en quelque sorte. Et on peut tomber dans des pièges. Et quand on est tombé dans le piège, c'est la frayeur parce qu'on se dit mais comment on va s'en sortir? Et parce qu'un piège, la vertu et la redoutable capacité d'un piège, c'est qu'on ne le voit pas avant. Le filet de l'oiseleur. Donc ça fait partie aussi des choses qui peuvent inspirer des terreurs à l'homme quand il tombe dans le piège, en quelque sorte. C'est lui qui te délivre donc, il te délivre. Et il te délivre également de la peste et de ses ravages. Aujourd'hui on parle beaucoup de cette épidémie Ebola, qui frappe aux portes de plusieurs pays, mais il y en a eu hein, dans l'histoire, finalement. Hein, quand on pense à ces grandes épidémies qui ont ravagé, qui ont fait des dégâts considérables, hein, la grippe espagnole, conséquence peut-être de cette terrible guerre 14-18, où là il y a eu plus de morts en l'espace d'un an en 1919-1920 que pendant les 4 années de guerre. C'était épouvantable. Oui, la peste et ses ravages. Mais Jésus nous dit bien, dans les derniers temps, il y aura des pestes et des maladies, toutes sortes de choses hein, qui viendront frapper le monde. C'est terrible. Hein. Alors, c'est vrai que là, nous n'avons pas de défense. Hein. Il peut y avoir des vaccins, il peut y avoir toutes sortes de choses, mais je crois que c'est ce qui est le plus redoutable pour les hommes, hein, pour se défendre contre justement ces maladies, hein, ces pandémies, parce que c'est pas seulement des épidémies, c'est des pandémies, c'est mondial. Puis avec tout le trafic qu'il peut y avoir, hein, tous les échanges internationaux et tout ça, personne n'est à l'abri aujourd'hui. Hein. Ben, c'est bien de savoir ça, parce que Dieu est capable de garder nos vies, vous comprenez? Il est capable de nous protéger. Si on peut éviter le filet de l'oiseleur, peut-être que la peste, eh bien, on n'y échappera pas. Hein, et la peste, ça recouvre toutes les maladies, toutes ces choses qui sont abominables et qui donnent la mort, naturellement. Il te couvrira de ses plumes. Alors, moi, je n'ai jamais pensé que Dieu avait des plumes. Mais c'est une métaphore, en quelque sorte, hein, pour nous dire qu'il va nous prendre. Tout à l'heure, il était question de l'ombre, à l'ombre de ses ailes, hein, c'est sûr. Mais il nous est simplement rappelé que c'est quelque chose de douillet, vous comprenez? Où on est enfoui, vous avez vu les petits poussins, ou poussins de canard, ou poussins d'autre chose. Hein. C'est marrant parce que ils sont mignons, hein. C'est vrai, on voit un petit bec qui sort à un moment donné, ils sont à l'intérieur. Hein. Ouais, ils sont dans les plumes de la mer. Hein. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui nous parle un petit peu de cette protection et de ce qu'il peut y avoir de confortable, en quelque sorte. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes, puisque nous restons dans la même pensée, hein. Et voilà ce qui était affirmé, c'est que sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Vous vous rendez compte? Le bouclier, c'est pour arrêter, quelque part, les traits enflammés, vous comprenez? Tout ce qui peut être projeté contre nous pour nous tuer. Et puis la cuirasse, ben, c'est une double protection, en quelque sorte. Dieu nous assure, eh bien, que ce qui est destiné pour nous faire du mal, pour nous nuire, voire nous détruire, eh bien, n'atteindra pas sa bout parce qu'il est fidèle. C'est lui qui l'a dit, et c'est lui qui maintiendra finalement, eh bien, toutes ces choses. Et puis nous avons également, à travers la suite, je le lis, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Alors, tout à l'heure, nous avons parlé des fondements véritables de la foi, que je rappelle tout simplement, la nature même de Dieu, notre engagement à croire en lui, en deuxième point, la fidélité indéfectible de Dieu et le caractère divin, ce que nous allons voir maintenant, parce que Dieu est juste et il est droit. Alors, de quoi s'agit-il à travers ces versets ? Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour. Ça, c'est tout à fait l'illustration, eh bien, de ceux qui sont dans un combat, qui sont dans un affrontement, où les choses volent de tous les côtés. Et vous savez, c'est l'apôtre Paul qui nous en parle, quand il nous parle justement de l'armure du chrétien, où il est question de la ceinture de la justice, il est question du bouclier de la foi en particulier, devant lequel et sur lequel vient s'éteindre tous les traits enflammés du malin. Et je crois que là aussi nous avons besoin de faire, ça fait image en quelque sorte, que quoi que, qu'il nous arrive, eh bien nous avons cette promesse où nous n'avons rien à craindre. Tu ne craindras pas. Voilà. Tu ne craindras pas cette erreur, la flèche qui vole de jour. C'est-à-dire tout ce qui peut nous arriver d'une manière tellement inattendue et auquel nous pouvons être exposés et pour nous faire mourir. Ça, c'est une chose qui est donc tellement importante. Et il s'agit à ce moment-là, eh bien, de cette justice et de cette droiture que Dieu, puisque c'est lui qui a fait la promesse. Et c'est une parole qui rassure naturellement. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, c'est-à-dire d'une manière tellement, tellement sournoise, tellement dissimulée, vous savez, ce genre de maladie mortelle, ça ne se voit pas, hein, c'est caché finalement. Et ça peut se transmettre de l'un à l'autre. On le voit avec la maladie Ebola, hein, c'est quelque chose de redoutable. Vous savez que ça fait peur aux gens, ça, hein, parce que on sait jamais qui on est à côté de, qui peut être à côté de nous. Alors celui-ci se transmet par les humeurs, on pourrait dire des contacts, hein. Mais il y a des maladies qui sont respiratoires, qui peuvent se communiquer justement par la respiration ou autre chose. Et là, c'est très difficile à déceler. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Eh oui, c'est une sécurité aussi, hein, qui nous est donnée. Et toujours encore, il est marqué la justice, le droit et la justice de Dieu. Et que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, ce qui est arrivé, on parlait tout à l'heure, finalement, de tous ces soldats qui étaient en train de mettre le pied sur les plages du débarquement. C'était quelque chose, je crois qu'il y a eu 9 000 et quelques jeunes gens en l'espace d'une journée, hein. Des jeunes de 20 à 25 ans, et plus ou moins, mais qui sont morts. Hein. C'était quelque chose d'effroyable. Hein. 10 000 personnes, vous vous rendez compte, qui sont tombées sur les plages. Et ça volait de tous les côtés. Hein. C'était infernal comme situation. On en a des reproductions. Maintenant, on voit un petit peu ce que ça a pu être. Hein. C'est quelque chose. Hein. Et c'est pour ça que ça a été vraiment quelque chose qui a marqué profondément l'esprit des croyants et des chrétiens, de ceux qui, véritablement, eh bien, connaissaient le message de l'Évangile. Et probablement, eh bien, pour les rassurer. Alors, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, et il nous est dit, tu ne seras pas atteint. Vous vous rendez compte? Ce sont des paroles qui ont été saisies, hein, dans le temps et encore aujourd'hui, de savoir que finalement, eh bien, Dieu me protège. Dieu me garde. Et on est loin de toutes ces superstitions, de tous ces gris-gris, de tous ces porte-bonheurs, de ces porte-protections que nous avons dans le monde, que l'on déploie. C'est toute affaire de commerce. C'est une affaire qui n'en finit pas. C'est de la superstition, tout ça, hein. C'est de la superstition et c'est de la magie, en quelque sorte. C'est quelque chose de très malsain, hein. Hein, ce qui subsiste encore le plus, c'est que on en voit peut-être de moins en moins, mais ça se fait encore. Et les gens qui finalement ne se déclarent pas croire en Dieu, les saints Christophe dans les voitures, et puis et toutes sortes de choses semblables. Mais ça n'a rien à voir avec la Bible, tout cela. Hein. Ça, c'est de la superstition. Mais il y a des promesses qui nous sont laissées, et c'est pour ça que la Bible, ça a quelque chose de tout à fait particulier. C'est que c'est pas matérialisé, vous comprenez. Ce sont des mots qui nous parlent. Et ces mots, ils sont saisis finalement dans notre cœur. C'est le Saint-Esprit qui leur donne la puissance. Eh oui, et ça s'appelle la foi, imaginez-vous. Eh oui, il y a des gens qui disent, mais c'est pas la peine de les mettre, enfin c'est pas la peine, vous faites ce que vous voulez, mais pas la peine de les afficher sur tous les murs de notre maison, etc., etc. Hein, ça devient quelquefois des bibelots évangéliques ou pseudo-évangéliques. Hein, mais bon, Moi, je ne suis pas en train de juger ce que font les uns et les autres, mais je veux dire que la véritable place de ces paroles « tu ne seras pas atteint », c'est avant tout dans notre cœur. Parce que c'est pas la peine de les connaître comme ça, de les avoir devant les yeux, que nous ne lisons plus du tout, et on dit bon, on les met pour les visiteurs qui viendront à la maison, ils verront qu'on est chrétien. Bon, d'accord. Enfin bon, avant tout, je crois que c'est de les avoir dans son cœur, au fond de son cœur. Et c'est la foi qui agit sur cela. Tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Il semblerait que, quelque part, dans ce paragraphe, il nous est donné, finalement, la lutte contre le bien et le mal. Ou la lutte du bien contre le mal, vous comprenez? Parce que la dernière phrase qu'il y a, tu verras, à un moment donné. Tu verras la grande différence entre celui qui croit et qui ne croit pas. Tu verras la différence entre l'athée, l'incrédule, et celui qui a foi en Dieu. Tu verras ce que Dieu est capable de faire pour te délivrer de la peste, pour te délivrer de toutes ces frayeurs, de toutes ces terreurs. Tu verras la différence entre ce qui est bon et qui vient de Dieu et ce qui est mauvais et qui vient de l'ennemi. Tu verras la rétribution des méchants. Vous savez, c'est une expérience à faire, hein. Pour la plupart d'entre nous, nous l'avons fait au moins une ou deux fois ou plusieurs fois dans notre vie. Quand on a vu des gens se déchaîner, je ne sais pas par quelle animosité ou quelle inimitié, vouloir du mal, vouloir détruire, vouloir tenter à la réputation et toutes sortes de choses, et de savoir qu'il ne s'agissait tout simplement pour nous de prier, non pas pour que le méchant soit puni, mais que nous soyons délivrés, et que le méchant ne soit pas détruit, mais qu'il cesse de faire du mal. Combien de fois nous avons vu Dieu à l'œuvre? Où là, eh bien, il y avait des règlements qui se passaient, des choses qui se passaient, et qui avaient leur réalité finalement dans le concret. Hein, où les gens, eh bien, là, ne pouvaient plus rien faire, parce que c'était Dieu qui avait agi. Hein. Faut mieux laisser agir Dieu, hein. Ce matin, on parlait tout simplement de la chair, de la main charnelle. Je crois qu'il ne faut pas l'utiliser quand on est chrétien, parce que c'est le meilleur moyen pour enflammer le cours de la méchanceté et du mal. Mais quand on fait les choses dans la foi, eh bien le Seigneur, lui, sait faire à notre place. Et quand il fait bien. Et les choses sont souvent définitives. Hein. On n'a plus à revenir. Alors, tu verras la rétribution des méchants, des belles histoires que nous avons dans l'Écriture sainte. Où nous voyons des hommes de foi qui ont été bousculés, qui ont été persécutés, qui ont été maltraités, qui ont connu des tribulations, et à un moment donné, ils ont crié à Dieu, et Dieu les a délivrés de tous leurs ennemis. Oui. Tu dresses devant moi une table, et ma coupe déborde, en face de mes ennemis. Eh oui. Quelle association il peut y avoir, hein. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je ne crains rien. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Oui. C'est ça, hein. C'est ça, justement, ce que le principe même de la foi, il est là, tout simplement. Alors, nous avons parlé des fondements de la véritable sécurité, il y a un instant. Je viens de terminer ce petit paragraphe où il était question des rétributions, tout simplement, de ce que peut nous apporter, finalement, eh bien, la grâce de Dieu. Et puis, nous allons passer à une autre partie, de 9 à 16, que je relis, si vous voulez. Car tu es mon refuge. Ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, le serpent, tu fouleras le lionceau et le dragon. Voilà ce qui nous est montré à travers ce paragraphe. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il s'agit tout simplement, maintenant, des rétributions ou des bénédictions de la sécurité que nous avons en Dieu. La bénédiction. Si nous cherchons une sécurité, c'est que nous sommes en danger. C'est que nous sommes menacés. Notre tête est exposée. Mais il y a une chose qui est le propre de Dieu, c'est de changer le mal en bien. Et c'est cette parole que nous avons dans l'épître de Paul aux Romains, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est un petit peu ce qui nous est donné à travers ça, les rétributions ou la bénédiction qui est liée à la sécurité que nous trouvons en Dieu dans nos souffrances, dans nos malheurs. Verset 9, pour nous le rappeler. Car tu es mon Dieu, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, alors aucun malheur ne t'arrivera. Vous avez remarqué qu'il y a une alternance. C'est tantôt Dieu, C'est tantôt une exhortation à celui qui passe l'épreuve, et c'est aussi celui qui passe l'épreuve qui dit ce qu'il ressent et ce qu'il vit. C'est un dialogue, en quelque sorte. C'est une conversation que nous avons dans ce psaume. Alors, celui qui passe par le feu, en quelque sorte, il dira « Mais tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. » Oui. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la réponse et puis la question, en quelque sorte, dans tout cela. Et dans ce verset 9, Dieu, il nous est dit que Dieu est un refuge assuré, que Dieu est un refuge assuré, et par le fait même que nous sommes assurés de Dieu dans ses actions pour nous délivrer, nous sommes donc rassurés. Vous savez, c'est extraordinaire de traverser des moments d'épreuve comme nous le voyons chez les enfants de Dieu, et de les voir dans le repos et dans la paix alors qu'ils devraient être dans un état de catastrophe et un état de choc en quelque sorte. Hein. C'est quand même la différence. Hein. Ah oui, on l'a vu, hein, des frères et des sœurs traversant des moments très difficiles. Et puis, rester dans une certaine sérénité. Hein. Pourquoi? C'est parce qu'il y a quelque chose de particulier. Hein. Ça ne s'invente pas. Hein. Alors que peut-être dans d'autres situations, si nous avions été sans Dieu, nous aurions paniqué, nous aurions peut-être fait tout et n'importe quoi. Mais là, nous restons dans le calme. Et vous savez, la caractéristique de la foi dont nous parle la Bible, la foi est une action, souvent, qui peut être active, mais qui peut être passive aussi. Où nous attendons le secours de Dieu paisiblement, sans peur, sans crainte, mais nous savons que le secours de Dieu va venir. Ouais. C'est l'histoire, si vous me permettez de vous en souvenir, eh bien, tout simplement de Daniel dans la fosse aux lions. Hein. Daniel, il nous est dit que c'est par la foi qu'il a fermé la gueule des lions. Hein, nous dit le livre des Hébreux, si ma mémoire est fidèle. Mais il aurait pu finalement, eh bien, par la foi, il aurait pu prendre les lions et puis les mettre, devenir un surhomme à ce moment-là et puis les mettre en, leur casser les dents et les casser. Non? Il nous a dit qu'il est resté tranquille et les lions ne lui ont rien fait du tout. La foi, c'est quelque chose. Hein. On ne peut pas s'imaginer. Ça, je crois que c'est le don de la foi. Vous savez dont tu nous as parlé? Parmi les fruits de l'esprit, les dons de l'esprit, les dons de puissance. La puissance, elle se manifeste quelquefois dans la tranquillité, dans la paix, dans un repos extraordinaire. On pourrait dire un repos divin. Oui. Tu es mon refuge, ô Éternel, et tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur, nous est-il dit, ne t'arrivera. Vous vous rendez compte? La multiplication des promesses de sécurité, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Surmonter, dominer, triompher le malheur et les agressions et tout ce que nous pouvons imaginer, où il y a là la manifestation venant de Dieu d'un secours invisible et bien réel, jusqu'à l'aide des anges. Vous savez ce qu'il nous est dit sur les anges dans le livre des Hébreux? Ce sont des messagers que Dieu envoie pour amener les hommes au salut. Vous vous rendez compte? Il enverra ses anges. D'ailleurs, le mot ange, dans son étymologie, veut dire messager, de toute façon, quoi qu'il en soit. Et écoutez bien la suite. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est quelque chose d'assez étonnant, tout ça, hein, la manière dont les choses sont dites. Vous savez que c'était une parole que le diable a citée à Jésus au moment de la troisième tentation. Celle où le diable, eh bien là, a voulu tenter Jésus en le faisant monter sur le haut du temple en disant bah, « Tu peux te jeter en bas, il ne t'arrivera rien. » Ça, c'est plus la foi, c'est de la témérité et c'est une parole diabolique et mortelle. Mais Jésus n'a pas marché dans tout cela, même si c'était la parole de Dieu. Parce que c'était une parole qui avait été déformée par le diable, tout simplement. Nous ne sommes pas appelés à être des téméraires, nous sommes appelés à être des hommes de raison dans la foi en Dieu. On n'est pas des fous, hein. On a souvent critiqué les chrétiens en disant « ce sont des gens qui sont complètement illuminés, hein, ils marchent à l'envers, ils sont prêts à faire n'importe quoi ». Alors nous nous désolidarisons d'une telle attitude. Moi personnellement, moi je m'en désolidarise, parce que ça c'est de la folie, et de la folie qui finit toujours par la catastrophe. Mais néanmoins, c'est cette promesse qui est donnée parce que nous sommes environnés d'un monde invisible. Moi, je n'ai jamais prêché le culte des anges, vous le savez. Hein? Mais moi, je crois qu'il peut y avoir dans notre environnement, et on n'a pas besoin finalement de gratter trop et de vouloir savoir tout ce qui se passe dans le monde invisible, mais le monde invisible existe. Et quelque part, nous l'avons dans l'histoire de la Bible assez souvent. Dans notre propre vie, nous pouvons dire que si nous sommes là aujourd'hui, c'est qu'il y a eu certainement une manifestation de la grâce de Dieu, qu'elle soit venue par Jésus, qu'elle soit venue d'une manière ou d'une autre, mais quelquefois aussi, on a été peut-être sauvé d'une catastrophe ou d'un danger imminent parce qu'il y avait ces messagers angéliques, moi je ne sais pas. Mais tout nous porte à croire que ça peut être possible en tous les cas. Et heureusement qu'on ne les voit pas et qu'on ne les identifie pas parce qu'on deviendrait des idolâtres. Vous savez, l'homme, la tendance de l'homme est très... vous savez, on est souvent près du fil du rasoir. Dès qu'il y a quelque chose qui bouge dans le surnaturel, on est prêt tout de suite à adorer. Si on adore, on adore Jésus, on adore Dieu à travers Jésus-Christ. Rien d'autre. C'est pour ça que ce monde est très discret et ça vaut mieux. C'est une préservation que Dieu nous donne. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors, tu marcheras sur le lion et sur l'aspi. Vous choisissez lequel vous voulez, hein. Mais l'un et l'autre, c'est pas trop recommandé. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Oui, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Un secours invisible mais bien réel, parce que j'ai confiance en Dieu et Dieu est capable de déclencher toutes sortes de choses. Et puis la dernière proposition, puisque nous avons vu les fondements véritables de la foi, de la sécurité, la véritable sécurité plutôt, pardon, les rétributions et les bénédictions de la sécurité. Je voudrais ouvrir simplement pour terminer en conclusion cette partie du verset 14 au verset 16 où il est question tout simplement de la sécurité quand on se sent aimé. Écoutez bien cette parole. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ça, c'est quelque chose qui nous est proposé. La sécurité, quand on se sent aimé, vous savez, notre monde va si mal, me semble-t-il. Les couples vont mal, les familles vont mal, la société va mal. Pour une bonne raison, c'est qu'il y a une absence monstrueuse, c'est le manque d'amour. Oui, manque d'amour. Alors on le compense par toutes sortes de choses. On essaie peut-être de mettre des pansements et des emplâtres aux gros problèmes, mais on ne va pas dans un monde qui aime de plus en plus. Ça serait plutôt une régression. Hein. D'ailleurs, à tel point que Jésus nous dira parmi les signes avant-coureurs du retour de Jésus, il nous est dit que la charité se refroidira à cause du plus grand nombre. Du plus grand nombre, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire que on est dans une société qui va, humainement parlant, essayer de compenser, mais ça ne sera jamais la compensation. Oui. Il y a une chose qui peut véritablement apporter au cœur de l'homme cet apaisement et ce repos et cette tranquillité, c'est d'être aimé, c'est de se sentir aimé. On le voit hein, dans le monde de l'éclatement, le monde de la séparation, le monde du divorce, on ne sait plus où. On ne sait plus où on en est rendu hein, dans ce monde-là. C'est terrible. Et c'est pour ça qu'il est dit qu'il y a là trois, quatre propositions, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Moi, ça me fait penser à Abraham quand il était sur le mont Morija et qu'il a voulu sacrifier son fils. Dieu lui dit, non, ne va pas plus loin, je sais que tu m'aimes et je sais que tu m'obéis et je sais que tu es prêt à me donner ton cœur. Quand on est prêt à être comme Abraham, à donner notre cœur et à faire confiance à Dieu, même sans comprendre le pourquoi du comment, alors à ce moment-là, nous sommes assurés de la protection et de la délivrance. D'ailleurs, on sait très bien qu'Isaac n'est pas mort. Hein. Il est revenu avec son père. Il est revenu tout simplement, eh bien, il est revenu vivant. Alors je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il est question d'une intime communion. Et cette communion, elle peut se baser sur une chose, sur quelque chose, sur un mot de ralliement, c'est le nom de Dieu. Oui. Parce que je connais mon Dieu, je sais qu'il est mon Père Céleste. Je sais que je peux tout lui demander, je suis son fils. Alors parce que je connais son nom, tout simplement, eh bien, je sais que je peux avoir cette protection. Je connais son nom. Je sais qui appeler en tous les cas. Je sais vers qui me tourner, parce que je connais son nom. Et la suite nous dit ceci. Il est question de la prière. Il m'invoquera et je lui répondrai. Oui. Invoque-moi au temps de la détresse. Oui. Et je serai là, je te délivrerai. Et ça, il faut s'en souvenir. Maintenant, il faut toujours l'invoquer en tout temps, quoi qu'il en soit. Pas attendre que la détresse arrive. Il m'invoquera et je lui répondrai, c'est une promesse. Je serai avec lui dans la détresse. C'est-à-dire que sa présence est là. Le Seigneur va se manifester et sa présence à elle seule est véritablement une garantie d'être tranquille et en sécurité, d'être dans la paix, dans le repos. Je le délivrerai et je le glorifierai, tout simplement. Cette assurance d'être délivré avec une pleine satisfaction. Je le glorifierai et je le rassasierai le long des jours et je lui ferai voir mon salut, tout simplement. C'est le mot qui conclut, le mot salut. On a fait ce petit passage, on a fait ce bout de chemin dans ce psaume, mais ça commence par des situations qui sont exposées, que les hommes peuvent tous connaître, et ça se termine par un nom extraordinaire, c'est le mot salut. Je lui ferai voir mon salut. Je lui ferai voir ma délivrance. Je lui ferai voir qu'il n'est pas tout seul dans la détresse. Je lui montrerai, je lui donnerai la preuve à travers, finalement, tout ce qu'il peut travailler, tout ce qu'il peut traverser, cet homme. Je lui montrerai que je suis là, que je suis auprès de lui et qu'il ne craint rien. Je lui ferai voir mon salut. Et dans ces expériences de foi que nous pouvons faire, à travers des moments difficiles, des moments particulièrement critiques que nous avons traversés, que nous pouvons traverser encore, que nous traverserons peut-être, peut-être, et bien que Dieu reste toujours le même. Et ce n'est pas pour rien que Jésus conclura, et il dira ses paroles, « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis tous les jours avec ceux qui espèrent en moi, qui espèrent en mon secours, qui espèrent en mon salut, qui espèrent dans mon pardon, qui espèrent, et bien tout ce que nous pouvons espérer en Dieu, parce que tout est possible avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse cet après-midi. Que Dieu nous donne sa grâce et ce psaume, on le garde sur notre cœur, pour les temps présents, et peut-être on en aura besoin pour les temps à venir. Que le Seigneur nous aide. On va prier quelques instants. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que cette parole que nous venons de méditer, partager ensemble, ce n'est pas en effet un talisman, ce n'est pas un porte-bonheur, ce n'est pas là en effet toutes ces garanties illusoires que nous nous donnons dans les peurs de l'existence, dans les frayeurs, dans ce que nous pouvons redouter, Seigneur, d'un monde qui est un monde dangereux, qui est un monde, en effet, qui, eh bien, d'un moment à un autre peut basculer. Oui, Seigneur, tout cela, eh bien, ce sont de piètres raisonnements et de faibles compensations. Mais nous savons que pour le croyant, pour celui qui met sa foi en Jésus-Christ, qui met sa foi en Dieu, eh bien, Seigneur, cette parole est une parole de puissance, une parole de sécurité. Une parole qui nous donne l'assurance, quand bien même nous devons aller dans la lutte et dans le combat, quand bien même nous devons traverser le feu et l'eau, quand bien même nous sommes exposés, Seigneur, à la méchanceté, à l'injustice, à toutes sortes de choses qui sont redoutables, humainement parlant, quand bien même nous connaîtrions tout cela, tu nous fais, en effet, la grâce de nous dire que tu es avec nous, que tu n'es pas contre nous, mais tu es avec nous. Et nous te bénissons, Seigneur. Moi, je te prie pour mes amis, mes frères et mes sœurs, qui peuvent être bousculés, qui peuvent être complètement retournés par des situations qu'ils pressentent dans l'avenir, à travers, eh bien, des choses que nous ne maîtrisons pas, Seigneur, des choses qui ne dépendent pas de nous, des décisions que nous ne pouvons pas prendre, où nous pouvons être entraînés, Seigneur, dans des choses terribles, dans des catastrophes qui ne seront pas, Seigneur, au niveau de l'individu, mais peut-être national, mondial, ça c'est vrai, Seigneur. Mais nous voulons te demander que tu véritablement nous donnes de nous souvenir de ces paroles et de les garder au plus profond de notre cœur. Nous croyons que l'ennemi, Seigneur, a plusieurs visages. Ce peut être ces temps de guerre. Ce peut être la maladie qui est aussi une guerre en nous-mêmes. Ce peut être l'injustice ou la méchanceté des autres qui nous crible, Seigneur. Ce peut être en effet la peur de perdre ceci ou cela, Seigneur. Mais, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous croyons que tu es là pour nous rassurer. Et tu nous dis, à travers des paroles qui sont des paroles bienfaisantes, que nous pouvons, Seigneur, vraiment nous approcher de toi. Il invoquera mon nom et je lui répondrai. Oui, Seigneur, tu nous le rappelles ailleurs. Invoque-moi et je te répondrai et je te glorifierai. Seigneur, nous te bénissons. Parce que tu veux encore nous montrer que le salut de Dieu, c'est un salut permanent. C'est pas un salut circonstanciel, il l'est aussi, mais c'est un salut, Seigneur, que nous pouvons avoir tous les jours, pour vivre en paix, dans la sécurité, dans le repos, dans la tranquillité, si nous faisons de toi, eh bien véritablement, notre appui, notre abri, notre forteresse. Oui, Seigneur, au nom de Jésus, merci Seigneur, merci pour ta bonté, ta fidélité, et bénis mes amis qui entendent cette parole, qu'ils l'entendent, qu'ils la gardent et qu'ils s'en souviennent. Au moment du besoin, merci Jésus. Amen. Voilà, nous allons chanter un cantique.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.